Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous Dominique Tenza, bonjour.
Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
Rarement le suspense aura été aussi intense, il faudra donc attendre la fin du championnat pour connaître le vainqueur de la Ligue 1.
Lille a fait match nul hier soir, victoire de Paris, les deux clubs se tiennent à un point d'écart. Dans ce journal également, la mise en examen du meurtrier de Marjorie à 14 ans, le jeune homme vient de passer sa première nuit en prison. Quand pourra-t-on enlever le masque? C'est possible aux États-Unis à condition d'être vacciné, on en est encore loin, chez nous en France, vous l'entendez. Et puis nous continuerons de suivre les préparatifs de la réouverture J-2. Les grands magasins peaufinent leurs rayons. Reportage à suivre.
La politique avec vous, Olivier Bost.
Nous ne faisons plus assez d'enfants en France. Et François Bayrou, oui, François Bayrou, a ses idées pour que ça change.
A tout à l'heure après le journal.
RTL Matin.
Ils avaient l'occasion d'être couronnés dès hier soir champions de France de Ligue 1, mais les Lillois ont laissé passer leur chance. Alors forcément, pour l'entraîneur Christophe Galtier, il y a eu des soirées plus réjouissantes.
Je ne peux pas vous dire que je suis satisfait du match nul, mais vu le contenu de notre match, quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Et on a ce dernier match, sachant que ça sera une finale.
Quand on ne gagne pas, il ne faut pas perdre. Le LOSC a fait match nul hier soir, 0-0 face à Saint-Etienne. Le club reste donc en tête, mais dangereusement rattrapé par le PSG qui ne lâche rien. Victoire 4-0 face à Reims. Lille et Paris désormais à un point d'écart. Philippe Sanfourche, il faudra donc attendre la dernière journée de championnat la semaine prochaine pour connaître le vainqueur.
Oui, 19 ans que le suspense n'avait pas été aussi haletant et l'écart si faible à l'entame de la dernière journée. Un point d'écart, un tout petit point entre Lille et Paris, comme en 2002, quand Lyon avait su coiffer sur le fil le leader lensois. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, veut se convaincre qu'un tel scénario reste possible dimanche prochain.
Bien sûr qu'on doit y croire, tout peut arriver en football. Mais pour ça, on doit d'abord faire notre travail en allant gagner à Brest, puis en espérant que Lille ne gagne pas face à Angers.
Dans cet incroyable épilogue, même Monaco, troisième, conserve une infime chance mathématique de remporter le titre en cas de défaite des deux premiers. Une bagarre au couteau en haut et en bas de tableau, puisque si Dijon et désormais Nîmes sont officiellement condamnés à la relégation, tout reste possible pour éviter la place de barragiste, aujourd'hui dévolue à Nantes. Pas moins de 4 autres clubs restent potentiellement en danger. Bordeaux, Brest et surtout Strasbourg et Lorient qui s'affronteront directement dans une sorte de finale pour la survie en Ligue 1.
Philippe Sanfourche pour RTL. Je vous donne les autres résultats de la soirée. Monaco 3e l'a emporté 2-1 face à Rennes. Nîmes, désormais relégué, nous disait Philippe, a concédé la défaite 5-2 face à Lyon. 0-0 entre Montpellier et Brest. Nantes a battu Dijon 4-0. Marseille l'a emporté sur Angers 3-2. Nice battu à domicile par Strasbourg 2-0. Et enfin victoire de Bordeaux face à Lens 3-0.
RTL, il est 7h03. L'adolescent soupçonné du meurtre de Marjorie a été mis en examen hier soir.
Âgé de 14 ans, il est accusé d'avoir poignardé mortellement la jeune fille vendredi après-midi d'un coup de couteau dans le thorax. Ça s'est passé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Un drame qui fait suite à de violents échanges sur les réseaux sociaux. L'adolescent, incarcéré hier soir, affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de la tuer. Son avocat au micro de Nerissa Emani.
Mon client est un enfant, un adolescent de 14 ans qui n'est pas connu des services de police et de justice puisqu'il a un casier vierge. Il dit que il n'a jamais voulu et même imaginé et souhaité la mort de la victime. Alors, il n'est pas question de se plaindre, bien évidemment, ce serait indécent. Mais n'en demeure pas moins que mon client est absolument accablé par le poids des responsabilités de son geste. Ça le dépasse.
Maître Adrien Gabeau, l'avocat de l'accusé, joint pour RTL par Nerissa Emani. Lui a été mis en examen pour assassinat. Valentin Marcon, principal suspect dans l'affaire du double meurtre des Cévennes, reconnaît avoir tué son patron et l'un de ses collègues. Il n'a semblé exprimer hier face aux enquêteurs aucun regret. Et puis on reparle de l'affaire Samuel Paty, puisque l'un des principaux suspects, le prédicateur islamiste qui avait diffusé la vidéo dénonçant le cours du professeur, demande sa remise en liberté et l'annulation de sa mise en examen pour complicité, estimant qu'il n'a aucun lien avec le terroriste tchétchène. La justice examinera sa requête aujourd'hui.
Une question à présent, et vous êtes nombreux à vous la poser, pourra-t-on, dans les semaines et le mois qui viennent, retirer notre masque et vivre à l'américaine?
Ouais, les États-Unis où depuis la semaine dernière les personnes vaccinées peuvent se balader, aller faire leurs courses sans masque, il n'est plus obligatoire. Alors que la France vient de passer ce week-end la barre des 20 millions de primo-vaccinés, Vous nous le dites ce matin, Agathe Landais, il va falloir être patient.
Oui, car pour permettre la levée des masques, il faut cocher deux cases. D'abord, il faut que le virus circule peu. C'est le cas aux États-Unis avec 11 cas pour 100 000 habitants, soit 10 fois moins que chez nous. Et ensuite, il faut suffisamment de personnes vaccinées. 36 % des Américains ont reçu deux doses, contre seulement 13 % des Français. Impossible donc, pour le moment, d'envisager chez nous la fin des masques. Le Haut Conseil de Santé publique a déjà assoupli un petit peu la règle, il y a trois semaines. Si vous êtes à l'intérieur, en famille ou entre amis, et que vous êtes tous vaccinés, vous pouvez sans risque enlever vos masques, mais uniquement si vous respectez les autres gestes barrières, pas plus de 6, distanciation physique et aération de la pièce. Mais pour tout le monde, même les non-vaccinés, il va falloir attendre encore. Olivier Véran a timidement évoqué la levée des masques en extérieur pour cet été, mais seulement si le virus circule peu et si la majorité des adultes est vaccinée.
Les précisions d'Agathe Landais pour RTL.
Il est 7h06 sur RTL. Raser les arbres pour permettre l'arrivée de la fibre optique. Cruel dilemme pour ces Vendéens, on en parle dans un instant.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal de Dominique Tenza et direction la Vendée à présent, où l'arrivée de la fibre optique ne fait pas que des heureux.
S'il s'agit pour les défenseurs de cette technologie de permettre l'accès à Internet de manière beaucoup plus rapide, son installation implique de raser une partie de la végétation. Les lignes ne doivent pas être en contact avec les arbres et le résultat pour l'environnement et pour l'esthétique est parfois très discutable. Reportage à Cugan en Vendée, donc Nicolas Bobby.
Arboricultrice, Audrey a reçu un joli petit dessin explicatif coloré. Les arbres et les végétaux étaient coupés à un mètre au-dessous des fils téléphoniques transportant la fibre optique. Elle a refusé de sacrifier ça.
Le courrier exigeait que ce soit fait rapidement. On a commencé à voir des particuliers couper les arbres, donc chacun avec sa tronçonneuse à main. Les gens ont fait comme ils ont pu. Tout autour de chez nous, les arbres ont été coupés à hauteur de taille, en fait, parce que les personnes n'ont pas d'équipement, ne sont pas habilitées. Quand on voit des grands chênes sur le bord de route ou même un frêne qui est coupé à hauteur de taille, on sait bien qu'il ne va pas repousser.
Riverain, ancien agriculteur, Rémi a assisté impuissant à ce véritable massacre à la tronçonneuse.
Ça me fait mal au cœur, ouais. On ne peut pas parler de gestion de l'arbre, mais de saccage tout court. Ben, on voit surtout des gens qui n'y connaissent rien du tout, qui ne comprennent pas comment fonctionne un arbre en tant qu'être vivant. Il suffit juste de l'apprendre à le connaître, d'apprendre où couper, quand couper. Ça me crève le cœur, ouais, de voir ça.
Les tronçonneurs de haies auraient pu se blesser. Pour économiser le prix de la coupe, ils n'ont pas fait appel à des élagueurs professionnels.
Nicolas, c'est dommage. Bobby pour RTL. De nouvelles frappes israéliennes la nuit dernière sur la bande de Gaza. Hier, les bombardements ont tué 42 Palestiniens, dont de nombreux enfants. Journée la plus sanglante depuis le début de cette escalade de violence. Le secrétaire général de l'ONU parle d'un carnage, une effusion de sang et de terreur qui doit cesser immédiatement. C'est aussi le constat des ONG, Christophe Decroix, dépassé par l'ampleur des combats.
Oui, selon la Croix-Rouge, ce conflit est d'une intensité jamais vue. En une semaine, le Hamas aurait lancé plus de 3000 roquettes vers Israël. De son côté, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Mais il y a une disproportion de moyens entre les protagonistes. Les Israéliens disposent d'une armée moderne avec des avions et des tanks quand le Hamas voit la majeure partie de ses roquettes tomber dans des terrains vagues ou être interceptées par le bouclier antimissile israélien. Disproportion qui se confirme dans le nombre de victimes. Une dizaine de morts côté israélien, près de 200 côté palestinien, dont de très nombreux enfants. Des familles ont été décimées ou ont dû fuir parce que, selon Israël, leur immeuble abritait des membres du Hamas. À ces inquiétudes s'ajoute le fait que Tsahal vise des bâtiments abritant des journalistes. Le Comité pour la protection des journalistes accuse l'armée israélienne de vouloir perturber le travail des médias qui rendent compte de la souffrance humaine à Gaza. Alors la communauté internationale reconnaît le droit à Israël de se défendre, mais sa violence l'isole de plus en plus. La procureure de la Cour pénale internationale s'inquiète même de possibles crimes de guerre.
Christophe Decroix pour RTL.
On finit avec les courses, Dominique, elles ont lieu aujourd'hui à Vichy.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 5, le 13, le 7, le 4, le 15 et le 12. La dernière minute, c'est le 5, Ekmoul.